Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
Bonjour. L'Union européenne aurait-elle la mémoire courte, oublié la maladie de la vache folle qui avait conduit à l'interdiction des farines animales à l'échelle européenne en 2000? Bruxelles vient en tout cas d'autoriser leur retour. Ces farines ne peuvent nourrir aujourd'hui que les poissons d'élevage, mais elles pourraient bientôt réapparaître dans l'alimentation des porcs et des poulets. Pourquoi et surtout comment vont-elles être utilisées désormais? C'est ce que nous explique ce reportage de notre collègue de la RTBF, Myriam Bell.
La polémique toujours et beaucoup de questions, notamment en Belgique, sur ce que sont devenues les farines animales britanniques qui pourraient transmettre la maladie de la vache folle.
Les cadavres d'animaux impropres à la consommation, morts d'accidents ou de maladies, on en extrait les os, les graisses, les protéines pour en faire des engrais et des farines. En faisant manger aux vaches leur propre cerveau, on aurait permis à une maladie rare, passée inaperçue jusqu'ici, de se propager.
C'était le mauvais feuilleton des années 90, l'épidémie de vaches folles et le risque de transmission à l'homme de Creutzfeldt-Jakob, maladie du cerveau. Les farines animales avaient été incriminées comme vecteur de contamination. C'était un aliment d'élevage riche en protéines, fait de restes d'animaux abattus. Leur interdiction avait été généralisée dans les 15 États de l'Union européenne en 2001, il y a juste 20 ans. Aujourd'hui, la porte est à nouveau entrouverte. En avril dernier, les experts des 27 États membres ont remis à la Commission européenne leurs avis sur un retour de farines animales, aujourd'hui appelées protéines animales transformées. Le retour de certaines farines et sous certaines conditions. Tous, sauf la France, ont donné leur feu vert. Et la Fédération wallonne de l'agriculture approuve Nicolas Marchal.
Au niveau de l'Europe, il y a la possibilité future de remettre des protéines animales dans le bol alimentaire de certains animaux. Donc ici, on parle de la gélatine de ruminants, des insectes, du porc et de la volaille, qu'on pourrait remettre dans l'alimentation des monogastriques, donc du porc et de la volaille.
Et ces farines resteraient interdites dans les exploitations qui comptent des bovins ou qui mêlent porc et volaille. Et à ces conditions s'ajouteront tous les garde-fous nés de la crise de la vache folle, traçabilité, contrôle de la production et de la distribution des farines.
On a tout simplement mis ces garde-fous pour mettre les règles les plus strictes possibles. On veut vraiment donner toutes les garanties aux consommateurs, aux producteurs, à l'ensemble de la chaîne, à l'ensemble de la population, qu'il n'y aura plus de problème, quoi.
Voyons voir, qu'est-ce que je vais vous montrer? Plus parlant au niveau de... pour l'alimentation, c'est la porcelet sevré.
Benoît Renken s'élève 200 truies et 1 millier de porcelets en Wallonie, à Blény, en province de Liège. Des porcelets tout roses qui s'agitent quand il entre dans l'enclos.
C'est leur façon de s'amuser, de jouer, de courir.
Il y prend une poignée de farine beige.
C'est composé à 80% de céréales locales, avec des compléments style soja, des compléments minéraux pour avoir une alimentation équilibrée.
Les animaux ont besoin de protéines, l'Union européenne n'en produit que trop peu et doit aujourd'hui les importer massivement, sous forme de soja surtout, avec une empreinte écologique désastreuse. Produire davantage de protéines dans l'Union limiterait cette dépendance et des coûts.
Il y aura bientôt la possibilité d'utiliser des farines de volaille. Est-ce que vous allez y avoir recours ou pas?
Si ça peut nous faire baisser un peu le prix des aliments, pourquoi pas? Ça peut nous permettre de faire baisser la pression sur le prix du soja, assez élevé pour le moment. Bon, si en plus ça peut avoir un aspect écologique, c'est-à-dire que moins de soja consommé, ça veut dire moins de déforestation en Amérique du Sud, ben pourquoi pas? Et alors la dernière chose, c'est que pourquoi ne pas valoriser un déchet d'abattoir, un déchet noble, qui pour le moment est brûlé sans aucune valeur ajoutée? Le porc est un omnivore, donc pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas avoir des protéines d'origine animale?
Ces farines, qui n'en porteront plus le nom, qui seront contrôlées de bout en bout, qui ne concerneront plus les bovins, l'association de consommateurs Testacha les voit pourtant toujours d'un mauvais œil. Jean-Philippe Ducard.
Je pense que la Commission européenne a la mémoire courte. C'est vrai qu'un certain nombre de mesures ont été prises depuis la fin des années 90 pour ne pas retomber dans les travers de ces années-là. Mais néanmoins, on passe à nouveau d'un principe d'interdiction à un principe d'autorisation avec condition. Donc c'est un oui, mais dans certains cas, le consommateur préfère le non. le nom, mais le cas échéant, mais avec des conditions qui soient claires. Aujourd'hui, elles ne sont pas lisibles, ces conditions, pour le consommateur. On lui dit, oui, vous inquiétez pas, on va y mettre des balises. Mais ces balises, elles ont déjà existé par le passé, ça n'a pas empêché la réapparition de certaines crises alimentaires et surtout de certaines fraudes.
Quant à l'argument écologique, farine locale à base de récup versus farine de soja importée, Testacha relativise. Ce qui serait vraiment vert, dit Jean-Philippe Ducard, c'est un changement de notre alimentation. Sauf opposition peu probable du Conseil et du Parlement européen, ces protéines animales seront à disposition en 2022. Chaque éleveur pourra alors choisir d'y recourir ou pas, après en avoir jaugé les arguments financiers, écologiques, son degré de confiance et celui des consommateurs.
L'alimentation animale a un impact climatique négatif avéré. Elle représente la moitié des émissions de gaz à effet de serre du secteur de l'élevage. Et ce n'est pas la réduction très marginale de la consommation de viande qui va renverser la tendance. Les spécialistes cherchent donc des alternatives. L'université de Pise a ainsi lancé des recherches pour inventer des farines animales à base d'insectes, une option plus durable et moins nocive. Les explications de notre correspondante Cécile Debarge.
C'est un projet qui résume parfaitement ce qu'est l'économie circulaire. Prenez des larves d'insectes, donnez-leur pour se nourrir des déchets alimentaires. Arrivés à une taille adulte, faites-les sécher, puis réduisez-les en poudre et produisez ainsi une farine pleine de protéines destinée à l'alimentation des animaux d'élevage. L'idée est vertueuse. D'abord, dans la nature, nombreux sont les animaux à se nourrir en partie d'insectes. Ensuite, cela permet de recycler des déchets alimentaires et enfin de produire des farines animales en évitant de trop solliciter les ressources en eau et en terres cultivables, à l'inverse du soja, souvent pointé du doigt pour ses conséquences désastreuses sur l'environnement. Lorsque l'université de Pise a lancé ses recherches en octobre 2018, c'était une pionnière. Le projet FIDS, qui prendra fin à l'automne, a concentré ses expériences sur deux types d'insectes, la mouche noire et les vers de farine. Les chercheurs ont travaillé avec des fermes de la région pour récupérer les déchets produits lors de la transformation des céréales, par exemple, pour nourrir les larves. L'idée a déjà convaincu quelques dizaines d'entreprises en Europe. Si la technique est désormais bien rodée, le plus gros obstacle est administratif. À l'été 2017, l'Union européenne a autorisé l'utilisation de 7 espèces d'insectes dans les farines animales, mais uniquement pour les poissons d'élevage. Les volailles et les porcs restent exclus pour le moment alors qu'ils représentent une partie importante des besoins. Dans ses projections pour 2030, la Commission européenne estime ainsi que les farines d'insectes représenteront 1,5 million de tonnes de protéines consommées sur les 40 millions que demanderont les besoins des filières d'élevage. C'est peu, trop peu encore pour renverser la tendance.
C'est la saison touristique, mais le Covid est passé par là. Moins 61% de fréquentation à l'échelle européenne, d'après Eurostat. Et certaines destinations estivales sont durement touchées. C'est le cas de Malte, où la baisse du tourisme est drastique, moins 80% depuis le début de la pandémie. Alors pour faire revenir les touristes dans les rues de La Valette et sur les plages de l'île de la Méditerranée, les autorités ont décidé de payer les touristes, enfin un petit peu. C'est un reportage de Juliette Rangeval.
Les rues des cités maltaises sont encore bien vides. Les professionnels du tourisme espèrent voir revenir les visiteurs le plus rapidement possible. Le guide du routard est une bible pour de nombreux voyageurs français. Carole sillonne les rues de Mdina pour réactualiser le guide. La cité silencieuse, comme on l'appelle, porte bien son nom. En ce début d'été, il n'y a presque personne. Pas facile de voyager avec la menace du Covid.
Déjà, les tracasseries avec les tests et les retards d'avion. Mais en fait, oui, on était aux catacombes Saint-Paul, on était toutes seules. Et puis, bon, c'est un certain confort et assez agréable, mais on sent que ça peine à redémarrer. Pour le reste, je trouve qu'au contraire, ils sont très très précautionneux, on nous prend la température, ils sont pas stressés, mais très attentifs. On sent que peut-être l'effet insulaire fait qu'ils sont très conscients du problème et de la possibilité qu'un foyer prenne une ampleur démesurée. Mais c'est vrai qu'on nous demande nos noms. Alors je vois bien en France les crispations que ça pourrait provoquer, mais ici ça nous semble normal, effectivement, d'aider tout le monde à respecter les normes. Bon, après, il y a les horaires de musée qui sont encore très restreints. Donc là-dessus, c'est aussi, pour le coup, un peu problématique pour le boulot. Mais bon, ça va. Surtout, c'est le premier voyage de l'année, donc je ne vous dirai rien de négatif.
Donc ici, il y a en réalité deux églises. Une dédiée à Saint-Pierre. Et l'autre dédié à Saint-Paul.
L'industrie du tourisme est très importante pour Malte. Elle s'élève à environ 15% du PIB, plus, si on prend en compte les retombées indirectes du secteur, le chiffre s'élèverait alors à 20 ou 25% du PIB. Marie-Joséphine Zamit est professeure de français et guide professionnel. Pour le moment, elle n'a pas retrouvé ses groupes de touristes habituels.
Je sais qu'il y a des gens qui viennent sur les traces de Saint-Paul. Mais sinon, il y en a qui aiment beaucoup la culture, donc ils vont à La Valette et à Mdina pour voir ces bâtiments baroques, parce que Mdina, c'est le summum du baroque. Et puis à La Valette, il y a la co-cathédrale de Saint-Jean qui, elle-même, elle est très riche aussi. Sinon, il y en a qui viennent pour aller à la plage. D'habitude, la saison de tourisme commence peut-être même avant, hein. Mais étant donné qu'on vient de sortir de la pandémie, donc évidemment, il n'y a pas encore beaucoup de touristes. Comme tu vois, il n'y en a pas. Hein.
Et pour attirer plus de monde, le ministère maltais du tourisme propose des chèques vacances d'un montant de 100 euros aux visiteurs. Le programme se décline pour les hôtels, le secteur de la plongée ou les séjours linguistiques et pour les longs séjours des seniors aussi. Un système qui ne convainc qu'à moitié Alain Arrigaud, à la tête d'une importante agence de voyage. Il est responsable des activités tourisme à la Chambre de commerce de Malte.
Pour pouvoir utiliser le chèque vacances, il faut respecter les conditions générales. Il faut le télécharger avant de voyager, il faut réserver directement sur le site internet. Donc ça dépend comment vous avez réservé. Si vous réservez par téléphone, par mail ou par Facebook, par exemple, ça ne fonctionnera pas. Très honnêtement, ça ne correspond pas à une demande de notre part. De notre point de vue, on ne s'y serait pas pris comme ça. Ça peut nous aider, mais c'est trop restreint. Ça passe par des voies trop spécifiques. Ça ne nous aide pas vraiment. Et puis, c'est plafonné. Chaque hôtel a droit à un nombre précis de chèques vacances. Ils vont pouvoir les utiliser, mais ça dépend des hôtels, de leur taille. Du coup, peut-être que vous n'aurez pas de chance. S'ils auront 10 chèques à distribuer, vous serez le 11e client. C'est très arbitraire, du coup. Nous, nous voulons promouvoir la destination Malte parce que c'est Malte, parce que nous avons beaucoup à offrir, pas à cause des chèques. C'est peut-être une motivation pour les budgets serrés, mais en fait, nous voulons que les visiteurs puissent avoir une expérience de qualité sur notre île. Mais bon, c'est le système mis en place, alors on essaie d'en tirer le maximum, mais c'est sûr, on s'y serait pris autrement.
Aucun des touristes rencontrés n'avait utilisé ces chèques vacances. Certains ont choisi Malte à cause du Covid, justement, comme Christine, fraîchement débarquée sur l'île avec son compagnon.
Là, en ce moment, avec le Covid, c'est plus simple de venir en Europe. Donc voilà, j'ai choisi Malte. Généralement, je pars beaucoup plus loin pour vraiment être dépaysée. Parce que bon, l'Europe, même si c'est différent de la France, ça se ressemble un petit peu au niveau de la culture, du paysage, etc. Donc... Mais bon, c'est quand même sympa.
Pour continuer à accueillir ces nouveaux touristes européens, les professionnels maltais comptent surtout pour le moment sur la reprise pleine et entière du trafic aérien et sur une pandémie maîtrisée.
En Espagne, le manoir Paso de Meiras, qui avait appartenu au dictateur Franco, ouvre ses portes au public. Petite victoire contre l'impunité du franquisme depuis le retour de la démocratie. La justice a récemment établi que la résidence avait été offerte à Franco, c'était dans les années 30, en tant que chef de l'État et non pas en tant que personne privée. C'est donc le patrimoine national qui organise les visites sur place. Diane Cambon.
Ce sont les petits-enfants et enfants des victimes du franquisme qui ont été les premiers à pouvoir visiter cet impressionnant manoir situé sur le littoral de Galice. Beaucoup d'entre eux sont venus avec des t-shirts ou foulards aux couleurs rouge, jaune et violet du drapeau républicain. Connue sous le nom du Paso, la demeure fut donnée à Franco en cadeau grâce à une souscription populaire en 1938, à la fin de la guerre. Et ce n'est qu'en 2020, après de nombreux procès avec les héritiers du dictateur, que la belle demeure est presque entièrement revenue à l'État espagnol. Presque, car les meubles, dont certains d'une grande valeur, font encore l'objet de litiges. Les enfants et petits-enfants du dictateur les réclament alors que la plupart appartenaient à l'État ou ont été cédés sous la contrainte par des particuliers. Du coup, les visites sont limitées au jardin, à la chapelle et au hall d'entrée du manoir. Il faudra encore attendre pour visiter les salons, les chambres et les trois bibliothèques où avaient lieu les conseils de ministres sous le franquisme. Pour les associations de la mémoire historique, il s'agit déjà d'une victoire de pouvoir pénétrer dans ce manoir, symbole de pouvoir des Franco. Jusqu'ici, seule la Fondation Franco permettait de faire visiter l'endroit 4 jours par mois, avec une version pro-franquiste de l'histoire. Le patrimoine national, désormais en charge des visites, n'hésite pas à parler de régime de la terreur ou mentionner les syndicalistes poursuivis par les franquistes qui se réfugiaient dans les montagnes, à quelques kilomètres seulement du manoir.
Turn on the radio. I'm talking to you.
The radio, remember? Make it work.
Radio. It tends to induce
music.
Et c'est l'heure de retrouver Vincent Théval pour la chronique musique. Bonjour Vincent.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Vous nous emmenez aujourd'hui vers l'Allemagne et la Turquie.
2 ans après un premier album très remarqué, voici le retour de Derya Yildirim, chanteuse et multi-instrumentiste turque basée à Berlin, toujours accompagnée par Groupe Şimşek, dont les membres sont eux français et anglais. Le principe de cette collaboration reste le même, offrir des relectures modernes de classiques anatoliens en mélangeant instruments traditionnels comme le luth turc, le baglama et synthétiseur ou rythmique pop. Ainsi, cette version enlevée de la chanson folklorique Deniz Dalgaziz Olmaz, que l'on pourrait traduire par « La mer ne peut exister sans les vagues », où Derya Yildirim chante l'histoire d'une personne perdue dans l'amour. Un titre à retrouver sur l'album Dost One, premier volet d'un diptyque à paraître cette année.
Chanteuse Derya Yildirim avec Groupe Şimşek. C'est ainsi que se termine Accent d'Europe. À la réalisation, Françoise Grelot. Vous pouvez podcaster cette émission sur le site rfi.fr et sur toutes les bonnes plateformes. À bientôt.